on étudie que le manger et on oublie complètement la situation physiologique du jeûner. Il y a plein de trucs à découvrir et c'est là vraiment la curiosité scientifique qui m'a amené à ça. Là, on va aussi avoir un effet sur certaines voies de croissance cellulaire comme la voie IGF-1. C'est une molécule qui est responsable de la croissance de nos cellules. Si on a trop d'IGF-1, ça va être un facteur de risque pour les cancers.
Oui, nos ancêtres, ils ne faisaient pas du jeûne intermittent, ils faisaient du jeûne long.
Oui, peut-être parce qu'on avait des prises alimentaires qui étaient complètement irrégulières. Plein de processus dans notre corps qui sont activés. L'autophagie, c'est un mécanisme de recyclage. Il y a aussi des effets sur le cerveau parce que les corps cétoniques vont avoir un effet un petit peu hormonal. Ils vont aussi provoquer une diminution de l'inflammation, une diminution de la pression artérielle. Même un autre truc à ajouter peut-être, c'est les mécanismes antidouleurs. Ça, c'est assez spectaculaire.
Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode.
L'équipe de 1000% prend soin de sa santé et c'est avec Lucie. C'est clairement un outil qui est à 1000% aligné avec nos visions. Comprendre son corps en profondeur pour mieux agir au quotidien. Avec Lucie, tu as un accès à une analyse ultra complète de ta santé. Plus de 110 biomarqueurs analysés répartis sur 11 grands systèmes du corps. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une prise de sang. Ils vont plus loin avec analyse urinaire, salivaire pour donner une vision vraiment globale. Il y a aussi une intelligence artificielle qui croise tes résultats, ton questionnaire de santé et même tes objets connectés. Et derrière, tu peux prendre rendez-vous avec un médecin si tu veux aller plus loin. Bref, c'est un outil pour comprendre, optimiser, suivre ta santé dans le temps. Si ça t'intéresse, tu peux aller directement sur leur site lucis.life et en plus de ça, tu bénéficies d'un code de réduction avec le code podcast1000. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et retour au podcast.
Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité. Un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au sommet de l'hypersanté en 2026.
Allez, merci Robin d'être présent avec nous pour ce nouveau podcast. On a déjà fait un épisode sur le jeûne intermittent et aujourd'hui on va se concentrer donc sur le jeûne long. Alors on avait dit qu'il y avait beaucoup de choses qui se disaient sur les réseaux sur le jeûne intermittent, mais le jeûne long, j'ai l'impression que c'est encore pire. Donc ça va être hyper intéressant. On va peut-être te laisser te présenter quand même pour les auditeurs qui n'ont pas vu le premier épisode.
Non, je suis Robin Ménage, je suis le directeur scientifique des cliniques Büchinger-Wilhelmy. On est spécialisé dans le jeûne long. On a une clinique en Allemagne, une clinique en Espagne. On va en avoir une en France bientôt. Et je suis aussi chercheur au King's College de Londres dans le département de nutrition.
Et bien sûr, accompagné de Pacton, de la team 1000%.
Voilà, je suis très heureux. J'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce qui t'a amené au jeûne?
Ce qui m'a amené au jeûne, c'est la curiosité scientifique. Parce que j'ai toujours travaillé sur comment améliorer sa santé. Mais avant, c'était les pesticides, les polluants de l'environnement. Et j'ai travaillé vraiment à un niveau où j'ai aussi vécu toutes les répercussions politiques, économiques, les pressions, parce que j'ai travaillé beaucoup sur le glyphosate, un pesticide dangereux, et je me suis retrouvé dans des procès où, quand tu te retrouves à témoigner, tu as les avocats de Monsanto qui sont en face de toi toute la journée, ils essayent de démolir ton témoignage parce que ça peut leur coûter 10 milliards ou 20 milliards lors d'un procès, tu réfléchis à ta carrière après. Et donc, j'ai découvert le jeûne long par hasard, par curiosité. J'étais à un séminaire où je rencontrais Dr. Françoise Wilhelmy de Toledo, qui était la directrice scientifique des cliniques avant moi. Et j'ai vu vraiment que c'était une méthode fascinante parce que, en fait, on étudie que le manger et on oublie complètement la situation physiologique du jeûner. Il y a plein de trucs à découvrir et c'est là vraiment la curiosité scientifique qui m'a amené à ça. Après, je l'ai expérimenté par moi-même et quand j'ai vu vraiment les effets que ça avait sur mon corps, les effets aussi sur ma façon de penser et les effets sur les patients dans des cliniques qui peuvent vraiment se guérir de maladies, je me suis dit, bon, j'arrête ma carrière qui regarde que des problèmes pour essayer de trouver des solutions.
C'est vrai que le jeûne long, on a parlé du jeûne intermittent dans l'épisode précédent dans l'histoire humaine. Le jeûne long aussi a sa place dans cette histoire et c'est quelque chose qu'on faisait aussi nos ancêtres très éloignés.
C'est ça, pour le rappeler, le jeûne intermittent, c'est ce qui correspond à notre adaptation à l'alternance du jour et de la nuit parce qu'on est fait pour pouvoir manger, bouger, digérer pendant la journée Et pendant la nuit, on dort, on jeûne, et c'est un moment où le corps se régénère. Ça correspond au jeûne intermittent. Le jeûne long, c'est une situation vraiment différente parce que c'est une situation où on va arrêter de manger ou restreindre vraiment beaucoup l'apport alimentaire pendant au moins 4 ou 5 jours. Et ça correspond à notre capacité à gérer l'absence de nourriture parce qu'au rythme des saisons, parfois il y avait une saison sèche, un hiver qui était très rigoureux. Et quand on n'avait pas à manger, on n'était pas juste blotti au fond de nos cavernes à rien faire. Il fallait avoir de l'énergie pour aller chercher à manger quand on était en jeûne. Et ça, c'est vraiment la capacité du jeûne long.
Oui, nos ancêtres, ils ne faisaient pas du jeûne intermittent, ils faisaient du jeûne long.
Oui, c'était plus la normale en fait, parce qu'on avait des prises alimentaires qui étaient complètement irrégulières.
Mais on sous-estime complètement les capacités du corps. J'ai vu 120 jours sans manger, c'est possible ça? Je sais pas, j'ai vu McNo, ça me parle, je ne sais pas si ça te parle ou pas. Un record de 120 jours, c'est possible?
Le record, c'est 384 jours.
Ah, 300...
Un Écossais qui s'appelle Angus, alors je peux te dire qu'il avait quand même des réserves pour en arriver là.
Ouais.
Et c'était vraiment avec un suivi médical, hein, des prises de sang pour les électrolytes, les vitamines. Donc, il était très encadré. Et ça peut être aussi très dangereux quand on en arrive là. Donc lui, il a eu la chance que ça se passe bien, mais ça montre les capacités extrêmes du corps, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser comme thérapie.
Hein, c'est incroyable. Combien 300 ?
384 jours, plus d'un an. J'ai peut-être fait une erreur sur quelques jours, mais c'est plus d'un an, 384.
Et donc, il consommait pratiquement que de l'eau tous les jours ?
Ok,
c'est exceptionnel. Bon, on va pas conseiller aux auditeurs de faire ça, bien sûr.
Ouais, n'essayez pas ça à la maison.
Déjà, avant de commencer, vu qu'on a dit qu'il y avait beaucoup de fausses croyances sur le jeûne, peut-être directement les couper. Qu'est-ce qui est faux sur le jeûne ? On entend énormément de choses. Est-ce qu'il y en a vraiment une ou deux que tu aimerais d'entrée enlever ?
Le pire, c'est cette croyance que le jeûne va affecter la masse musculaire, on va détruire les muscles. Et ça, c'est parce que... Les gens ont peur parce qu'il y a des études qui ont été mal faites ou alors des études qui ont été faites avec des protocoles de jeûne dangereux. Tous les protocoles de jeûne long ne sont pas sûrs et efficaces. Ça, c'est important de le dire. Mais si on le fait bien, le jeûne va préserver la masse musculaire. Et on le comprend parce que dans notre passé, nos ancêtres, s'ils perdaient leur masse musculaire dès qu'il y avait une période d'une semaine où il n'y avait pas à manger, on n'en serait pas là. Et donc, on a vraiment des mécanismes dans le corps. Quand on jeûne, on utilise le gras comme source d'énergie. Les muscles vont être préservés. On va avoir une petite diminution de la masse musculaire pendant le jeûne. Mais après le jeûne, il y a une fenêtre anabolique. Et il y a beaucoup de personnes qui, même avec un jeûne long, après un mois, vont se retrouver avec plus de muscles qu'avant. Donc ça, c'est vraiment une croyance à démolir. Le jeûne n'abîme pas les muscles. Le jeûne n'est pas dangereux pour les muscles.
Et tu dis qu'il y a différents protocoles de jeûne long. Peut-être le bien faire un jeûne long, c'est déjà être accompagné. Parce que le jeûne intermittent, on en a parlé. Tu faisais appel déjà à sa propre découverte et se référer à ses sensations. Mais le jeûne long, on est sur un autre game.
Oui, parce que c'est vraiment, ça peut être dangereux pour des personnes qui ne sont pas en bonne santé. Alors, tout le monde ne doit pas faire un jeûne long. Et c'est pour ça qu'il faut en parler avec un médecin. C'est quelque chose que, quand on a l'habitude, on peut le faire tout seul. Moi, je le fais tout seul, par exemple, et parce que je connais très bien la fonction de mon corps. Mais c'est quelque chose de dangereux à faire avec un protocole adapté. Parce que certains protocoles vont faire perdre les muscles. Alors que d'autres vont pouvoir même encourager et stimuler les muscles.
Est-ce que tu peux rentrer dans ces protocoles, nous donner quelques idées de protocoles qui pourraient être plutôt délétères sur la masse musculaire ou pas ?
Alors, si on se met que à l'eau, par exemple, ça peut avoir des effets délétères parce que, en rentrant dans les détails, là, c'est vraiment des détails physiologiques, mais le corps, quand même, a besoin de glucose pendant le jeûne. On ne va pas pouvoir utiliser que du gras parce que le cerveau ne peut pas brûler le gras. Et pour faire du glucose, si on n'en mange pas, on va avoir besoin d'utiliser des protéines. Et donc, c'est bien d'avoir un minimum de glucose quand même dans la journée pour pouvoir préserver ses protéines et aider son corps à ne pas être dans une situation trop stressante. Donc, le jeûne long, l'idéal, ce n'est pas zéro calorie, c'est d'avoir quelques centaines de calories quand même par jour. On est toujours en jeûne long, mais on protège son corps parce qu'on donne quand même un petit peu de glucose. Et le deuxième truc important, il faut bouger. Les protocoles de jeûne long qui encouragent de rester à la maison et de rien faire, ça peut être dangereux parce que le corps a aussi besoin d'avoir des signaux dans les muscles. Il y a cette protéine mTOR, on en a parlé dans l'épisode précédent. Cette protéine, elle a besoin aussi d'être stimulée pour envoyer au corps le signal que les muscles sont importants et doivent être préservés.
Au niveau des calories, c'est 500 calories maximum par jour, c'est ça ?
C'est ça, c'est une règle de base. Au final, ça peut quand même dépendre du métabolisme de la personne, mais on dit souvent en dessous de 500 kilocalories, on est en jeûne long parce qu'on va vraiment rentrer dans ce métabolisme particulier.
Et juste, je rebondis par rapport à la deuxième partie qui était l'activité physique. On dit souvent que c'est les deux premiers jours qui sont difficiles. Même ces deux jours, on peut faire de l'activité physique, il n'y a pas de souci, même si c'est quand même stressant et contraignant pour l'organisme.
Les deux premiers jours, on encourage plutôt à observer son corps, à se reposer, et parce que si on peut faire de l'activité physique, pourquoi pas. Mais les deux premiers jours, surtout pour une personne qui n'a jamais jeûné, ça peut être assez violent parce que c'est comme le muscle en fait dans ces cas-là. Si quand on veut faire du sport, on commence directement par faire un marathon alors qu'on est une couch potato, ça ne va pas le faire, ça va être stressant pour le corps. Le jeûne, c'est aussi un stress métabolique comme ce stress qui est avec un stress hormétique. Parfois, vous avez peut-être entendu parler de ça. Et ce stress, il est trop intense parce qu'on n'a jamais jeûné, parce qu'on va trop vite et avec un protocole qui n'est pas adapté. Ça va être dangereux et on va avoir des symptômes vraiment divers et variés. Il y a des statistiques vraiment très claires sur ces protocoles de jeûne long qui sont juste avec de l'eau sans bouger. Les personnes vont vraiment se sentir mal, vont avoir mal à la tête, vont avoir plein des palpitations parfois. Alors que si on a vraiment un encadrement et qu'on fait ça bien, ça va être beaucoup plus réduit. Ça peut être quand même fréquent d'avoir un petit peu mal à la tête, se sentir un petit peu faible, surtout pendant les premiers jours. Alors parfois, les gens se découragent, mais c'est après 3, 4, 5 jours que ça va mieux parce que le corps brûle efficacement les graisses. Parce que ces 2, 3 premiers jours, c'est le moment où le corps n'est pas adapté au jeûne. Bascule vraiment le métabolisme et on ne brûle pas encore ses graisses efficacement, donc le corps est un petit peu en stress.
Je pense qu'on reviendra à la fin du podcast peut-être sur vraiment les modalités pour mettre ça en place, peut-être s'intéresser aux effets. Je ne sais pas si tu as une question, Vincent.
Oui, en fait, tu nous as envoyé tes slides de conférence et à un moment, on faisait la réflexion avec Pierre que les premiers jours, il y a vraiment un travail avec la relation à la fin. Il y a même on va chercher un état méditatif par rapport à tout ça. Tu parles de tolérer un petit peu tout ça.
Oui, parce que les premiers jours, c'est assez difficile. Surtout, si on arrête de manger, par exemple, jour zéro, on arrête de manger le soir, le lendemain matin, on va avoir faim et dans la journée, ça va augmenter petit à petit. Donc là, il y a vraiment un travail à faire. Quand on a l'habitude de jeûner, le corps et même l'esprit sait à quoi s'attendre et on ne va pas avoir vraiment une faim très dure qui va se développer. Quand je jeûne, si je planifie que je vais faire un jeûne, parce que j'ai déjà jeûné plein de fois, je ne vais pas du tout avoir faim. C'est vraiment mental. Mais par contre, si je n'ai pas planifié de jeûner et que j'avais prévu d'avoir mon petit déjeuner à 8 heures et que j'ai du boulot et que je ne peux le voir qu'à 11 heures, je vais vraiment avoir super faim. Donc, c'est vraiment très, très mental.
C'est mental, mais c'est aussi hormonal, non ? Et il y a tout ce rapport entre ghréline, leptine, les hormones de la faim, de la satiété, qui doivent être perturbées face à ce stress.
C'est ça, oui. Au début, on a vraiment une perturbation de ces hormones, ce qui peut vraiment créer cette sensation de faim qui est là au début. Il ne faut pas le cacher, mais c'est un cap à passer parce qu'une fois qu'on commence à brûler ces graisses, les corps cétoniques vont avoir un effet qui va inhiber la faim. Parce que ça va inhiber ces hormones. On ne va pas avoir une sécrétion de ghréline comme on peut l'avoir si on est dans une situation où on n'a pas pris son petit déjeuner. Et on ne va pas avoir faim. Le corps va se sentir bien parce qu'au final, on est nourri de l'intérieur. On brûle notre gras.
Et ça va rester après, une fois qu'on va rompre ce jeûne, est-ce que justement, cette sensation de faim, elle va être un petit peu réduite par rapport à avant le jeûne ou elle va revenir normalement ?
C'est là où il faut faire aussi un travail sur la réintroduction de l'alimentation parce qu'on oublie souvent que cette période est très importante parce que quand on réintroduit l'alimentation, c'est aussi des cellules souches qui se modifient. Il y a plein de choses qui se passent et ça, il faut le faire bien parce que sinon, on peut perdre les effets bénéfiques du jeûne. On peut se retrouver dans une situation où on a des fringales qui sont très difficiles à contrôler. Ça dépend des gens, mais par exemple, dans mon cas, je sais que quand je réintroduis l'alimentation, je vais rester quand même quelques jours dans le métabolisme du jeûne parce que je réintroduis d'une façon progressive et je ne vais pas avoir assez de calories pour revenir directement à la base. Mais quand je repasse vraiment dans le métabolisme manger, après quelques jours, il y a une période où je vais vraiment avoir des fringales, c'est pendant une semaine, et là, il faut vraiment que je sois discipliné. Et je vais manger moins, je vais avoir moins besoin de manger. Mais c'est là où il y a vraiment un travail à faire, et c'est pour ça que de le faire vraiment d'une façon où on est encadré médicalement, c'est super important parce qu'on reçoit des conseils pour gérer ça après.
C'est une progressivité calorique au fil des jours après le jeûne, c'est ça? Tu augmentes petit à petit de combien à peu près? Tu passes de 500 à 1000, 1500 ou tu t'augmentes de 1000?
On augmente par exemple 800, 1200, 1600 pour que le corps se réhabitue à manger parce qu'un corps qui n'a pas eu les aliments pendant une semaine ou deux va réagir d'une façon excessive parce que les aliments, c'est quand même quelque chose qui va provoquer une réaction immunitaire. C'est des corps étrangers. Le corps se demande est-ce que c'est quelque chose de dangereux ou pas. Alors, si l'intestin est au repos et qu'on va manger une grosse quantité d'aliments, on va avoir une réaction exacerbée du système immunitaire. Ça va provoquer une inflammation et là, on se sent vraiment mal.
Et donc, il y a une progression dans la diminution calorique pour arriver à la phase de jeûne, il y a une progression aussi après pour revenir sur les calories, mais tu te réfères au spectre calorique? Tu ne te réfères pas à la densité nutritionnelle, par exemple?
On se réfère aux calories parce que c'est ce qui a de plus facile et c'est ce qui a toujours été fait d'une façon un petit peu empirique dans le passé. Je pense que si on voulait vraiment être précis, il faudrait adapter au métabolisme de la personne. Peut-être qu'on irait dans des calculs très précis, des pourcentages de métabolisme. Mais ça, on n'en est pas là cliniquement. Ce n'est pas ce qui est utilisé.
OK. Et sur 1000%, on a plusieurs conseils qui sont transversaux avec toutes les thématiques qui ont été abordées. D'ailleurs, mettez-nous 5 étoiles, envoyez les pouces et mettez-nous des commentaires si vous avez fait un jeûne long. L'idée, c'est... Un des conseils, c'est d'être clair avec son objectif. Et le jeûne long, ça peut être thérapeutique ou ça peut être un outil de prévention de santé.
Ouais, il faut être clair avec ses objectifs, le prévoir dans son calendrier pour pas que ça soit dans une période stressante et avoir un accompagnement. Parce que, alors, je pense que la règle de base, c'est de dire ne faites pas ça à la maison si vous avez jamais fait un jeûne long. Après, si vous avez déjà fait du jeûne long à la maison, vous êtes en bonne santé, c'est quelque chose, je pense, qui peut se pratiquer assez avec sécurité. Mais faut vraiment faire attention, et ça, c'est vraiment important de le dire, parce qu'à chaque fois que je parle de jeûne long, il y a toujours des personnes qui, même si je dis qu'il faut faire attention, qui me disent qu'ils ont essayé à la maison et que c'est horrible. Mais oui, ça va être horrible si vous essayez à la maison sans avoir de pratique. C'est comme si vous allez faire un entraînement de sport, vous n'avez jamais fait de sport et vous courez directement 20 km. Ça va mal se passer. Mais ça peut vraiment avoir des effets thérapeutiques et aussi sur la prévention. Ouais.
Justement, à quel profil vous conseillerez de faire ce jeûne? Est-ce qu'il y a vraiment des profils de personnes sur lesquels vous direz, il faut absolument, je n'irai pas jusque-là, mais je vous conseille fortement de faire un jeûne?
La personne qui a un syndrome métabolique, trop de graisse, diabète de type 2, un foie gras, ça, le jeûne, ça va vraiment être l'idéal pour provoquer un changement brutal parce que ça va être un déclenchement après pour un nouveau mode de vie. On s'en sert aussi comme ça, nous. C'est un peu comme une méthode de réhabilitation parce que faut imaginer, si tu te casses le genou, on ne va pas te laisser sous anti-inflammatoire juste pour gérer l'inflammation. Tu peux être envoyé dans un centre pour avoir du kiné, de la réhabilitation, pour qu'après, tu saches quoi faire pour ton mode de vie. Les personnes qui ont un syndrome métabolique, qui ont de l'obésité, ça va être pareil. Tu peux les envoyer dans un centre de réhabilitation. Les jeûner, c'est l'idéal pour remettre les choses à zéro et après, les accompagner pour que ça se passe bien sur le long terme.
Donc, pour vous, toutes les personnes en surpoids obésité devraient faire un jeûne? Ou est-ce qu'il y a quand même des cas et des risques sur certains profils?
Il y a des cas quand même où faut faire attention parce que les personnes peuvent avoir d'autres maladies qui peuvent être des contre-indications au jeûne. Donc, c'est là où ça reste individuel. Et il y a des personnes qui ont aussi de l'obésité qu'on appelle sarcopénique. Ils sont obèses, mais pas assez de muscles. Là, il faut faire attention. Et donc, c'est pour ça que ça reste individuel quand même. On va dire que dans la plupart des cas, le syndrome métabolique, comme on le voit chez 95% des gens, c'est dû à trop manger n'importe quand, pas faire assez d'exercice. Et ça, le jeûne long peut être vraiment un déclencheur.
Parce que la contradiction des personnes en surpoids, c'est qu'ils ont beaucoup de ressources énergétiques, de réserves, mais ils n'ont plus l'accès parce qu'il y a un dérèglement hormonal, il y a un rapport à la faim qui est perturbé. Et donc, le jeûne peut être un outil de réapprentissage à utiliser leurs propres ressources.
C'est ça, c'est un réapprentissage parce qu'on va avoir pas seulement un reset métabolique, ça va être aussi quelque chose qui va se passer dans la tête parce que pendant le jeûne, on va avoir ce qu'on a montré scientifiquement, c'est une activation du système nerveux parasympathique qui va faire que ça ne va pas juste être un effet de relaxation, mais on va mieux comprendre, mieux sentir ce qui se passe dans notre corps et du coup être beaucoup plus proche de nos besoins. Et ça va nous permettre de nous recalibrer sur le long terme.
Et nous ? C'est-à-dire, là, on parle peut-être de gens en surpoids qui ont des problèmes de santé métabolique et les gens qui se sentent plutôt en bonne santé, sans problème particulier. Est-ce qu'on aura un intérêt à jeûner ?
Je pense qu'il y a un intérêt, c'est de découvrir les facultés de son corps parce qu'on peut vraiment être surpris. C'est comme quand on fait du sport, on peut vraiment être surpris par comment on réagit. Et je trouve que c'est très bien de pouvoir connaître son corps dans différentes situations. Mais ça ne va pas forcément avoir un effet sur ta santé visible directement. Ça, c'est clair. Je pense que pour une personne en bonne santé, ça peut être comme un entretien d'une voiture pour tu veux qu'elle fasse beaucoup plus de kilomètres. Il faut l'amener au garage quand même régulièrement, même si elle n'est pas directement en panne. Et ça peut être aussi une des vertus du jeûne long, donc d'avoir aussi la prévention.
Une fois par an, est-ce que tu conseillerais à tout le monde de faire une fois par an un jeûne pour justement s'explorer ?
Est-ce que c'est un outil à 1000%?
C'est un outil à 1000% parce que c'est quelque chose qui peut être précieux dans la boîte à outils comme beaucoup d'autres choses. Et c'est un outil qui peut permettre d'optimiser sa longévité sur le long terme.
Parce qu'on l'a dit dans l'épisode précédent, excuse-moi Vincent, il y a une vraie relation entre l'nombre de calories ingérées et l'espérance de vie. On est d'accord. Donc là, on diminue le nombre de calories pendant un moment aussi.
On diminue et dans ce cas-là, on va aussi avoir un effet sur certaines voies de croissance cellulaire, comme la voie IGF-1. IGF-1, c'est une molécule qui est responsable de la croissance de nos cellules. Si on a trop d'IGF-1, ça va être un facteur de risque pour les cancers. Et donc, quand on jeûne, on ne va pas seulement juste restreindre les calories, mais on va diminuer en fait notre moteur, le moteur de notre corps, pour qu'il tourne à un régime un petit peu plus adapté. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup mieux pour le long terme.
Et sur les mécanismes, est-ce qu'on utilise les mêmes mécanismes que le jeûne intermittent ? Et qu'est-ce qui se passe sur les effets physiologiques de ce jeûne long ?
Alors, on n'est pas du tout sur les mêmes mécanismes que le jeûne intermittent, parce que quand on jeûne d'une façon intermittente, le plus souvent, on va restreindre la durée pendant laquelle on mange dans la journée, on va sauter une journée complète, mais ça ne va pas mobiliser les graisses d'une façon complète. C'est après que ça arrive. Et quand, après 24 heures de jeûne, on va commencer à mobiliser les graisses, on va commencer à avoir ces corps cétoniques qui circulent dans notre sang. Et pour qu'ils arrivent à un niveau assez haut, qui permet vraiment d'avoir un reset du glucose, là, il faut attendre quand même quelques jours. Et c'est pour cela que c'est après 3, 4, 5 jours qu'on va vraiment rentrer dans ce métabolisme du jeûne long, où les corps cétoniques vont avoir un effet sur différents organes. Les corps cétoniques, c'est des molécules qui apportent de l'énergie au cerveau, mais c'est des molécules qui transmettent des signaux aussi. Et donc, c'est pour cela que en ayant ces corps cétoniques pendant le jeûne long, alors qu'on ne les a pas forcément dans le jeûne intermittent, on va avoir des effets complètement différents.
Et il y a aussi, tu vois, on a fait un super épisode avec Dr Ador, qu'on salue, sur le foie et la détox. Et on a vu que principalement les toxines, elles étaient liposolubles, donc elles sont principalement dans les graisses. Là, on va mobiliser notre tissu adipeux. Est-ce qu'il y a une... on s'expose à une charge toxique plus importante?
Ça, c'est une question auquel on n'a pas répondu. Et il y a des risques, je pense, pour certaines personnes qui ne sont pas bien compris. Est-ce que ça va vraiment être dangereux sur le long terme? On ne sait pas trop, mais c'est vrai qu'on a des polluants qui sont stockés dans les graisses. Si on perd ces graisses, on va les remettre en circulation. Et donc là, je pense que il y a vraiment des recherches encore à faire. C'est là où c'est une zone d'ombre.
Donc, on a compris. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur ça.
Non, mais c'est vrai que sur les effets, tu nous as parlé. Du coup, on vient travailler sur les réserves lipidiques, sur les corps cétoniques. Est-ce qu'il y a des effets sur nos mitochondries, sur la longévité, sur la régénération, l'autophagie? Dis-nous un petit peu tous ces effets bénéfiques pour notre santé et notre longévité.
Oui, parce que quand on bascule dans le métabolisme des graisses, ça va basculer cet interrupteur, mTOR. Et ça fait qu'on va avoir plein de processus dans notre corps qui sont activés. L'autophagie, c'est un de ces processus. Donc, l'autophagie, c'est un mécanisme de recyclage des molécules parce qu'on n'a pas des molécules qui arrivent dans notre alimentation. On va utiliser celles qui sont déjà dans nos cellules pour pouvoir continuer à maintenir le fonctionnement du corps. Et c'est souvent en éliminant des vieilles structures de nos cellules. Donc, on en ressort quand même rajeuni avec l'autophagie. Et il y a aussi des effets sur le cerveau parce que les corps cétoniques vont avoir un effet un petit peu hormonal sur le cerveau. Donc, on se sent différent et on peut avoir un petit peu de la clarté, de la créativité. Les expériences sont toujours un peu différentes. Tout le monde n'a pas ça, mais les corps cétoniques peuvent provoquer ça. Ils vont aussi provoquer une diminution de l'inflammation, une diminution de la pression artérielle. Donc, pour les gens qui ont de l'hypertension, le jeûne long peut être très régulateur. Et donc, tout ça, c'est vraiment via les corps cétoniques. Et même un autre truc à ajouter, peut-être, c'est les mécanismes antidouleur. Ça, c'est assez spectaculaire. C'est vraiment un jeûne long après une semaine. Mais les personnes qui ont des douleurs chroniques peuvent avoir ces douleurs, pas complètement éliminées, mais vraiment réduites par le jeûne long.
Par contre, je rebondis juste sur la pression artérielle. Sur le jeûne intermittent, on n'a pas trop d'amélioration, non?
On peut avoir une amélioration si, sur le long terme, on va perdre du poids et on va être en meilleure santé métabolique. Ça va avoir en conséquence une amélioration de la pression artérielle, mais ce n'est pas propre au jeûne intermittent. C'est plus le jeûne long. Et le jeûne long, on voit très bien que les personnes qui ont des médicaments contre la tension vont pouvoir souvent se passer de leurs médicaments. Ou alors réduire la dose de moitié. C'est un petit peu individuel, mais chez la moitié de nos patients, on va avoir un effet sur la prise de médicaments.
Il faut quand même faire attention, ou il faut toujours pareil, se consulter un professionnel, surtout pour ces gens-là qui sont à risque, j'imagine.
Il faut vraiment consulter un professionnel parce que si on a une tension haute et qu'on a des médicaments, le plus souvent, pendant le jeûne, il faut enlever les médicaments parce que sinon, la tension va descendre trop bas. Et ça va être dangereux. Et c'est pour ça que là, il y a vraiment un accompagnement médical. Dès qu'on prend des médicaments pour des maladies chroniques, il ne faut pas faire un jeûne long à la maison seul.
C'est vrai qu'en t'écoutant, je repense à un reportage Arte, que je pense que beaucoup de gens ont vu sur le jeûne, qui m'a marqué. Et en t'écoutant, je me dis que le jeûne long est un outil de choix pour toutes ces maladies chroniques qui tuent l'homme actuellement, ces maladies de civilisation, cancer, neurodégénératif, cardiovasculaire et diabète.
Oui, quand on fait un jeûne long, on restaure un équilibre, on restaure des périodes pendant lesquelles le corps peut se réparer. Et donc, c'est vrai que toutes ces maladies de civilisation, comme les maladies cardiovasculaires, le syndrome métabolique, le cancer aussi. Le cancer, c'est un cas particulier parce qu'il ne faut pas jeûner avec un cancer parce que c'est quand même un petit peu touchy, mais ça peut avoir sur la prévention du cancer des effets positifs.
Dans ce reportage, il y avait une diète mimétique de jeûne, je crois que c'était le fasting mimétique.
Ouais, il y a
des très bon en anglais.
Ouais, fasting mimicking diet, donc c'est les diètes qui imitent le jeûne. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études cliniques qui montrent des effets assez prometteurs sur pas forcément le traitement des cancers, ça va être ce qu'on appelle un traitement adjuvant, donc ça va être en complément d'une chimiothérapie et d'une immunothérapie. Ce qui est assez clair, c'est que ça va diminuer les effets secondaires d'une chimiothérapie. Le patient va se sentir beaucoup mieux, moins d'effets secondaires. Est-ce que ça va améliorer l'efficacité de la chimiothérapie? Il y a quelques études cliniques qui le montrent, mais pas des conclusions encore très solides. Mais on n'a pas de protocole clair pour utiliser le jeûne dans ces cas-là en clinique. C'est de la recherche.
Non. Seulement 10% d'entre vous sont abonnés sur nos réseaux. N'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre les 5 étoiles. Ça nous donne de la force pour la suite. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrienco, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code PODCAST10. Lien et code en description. Retour au podcast.
On a compris que le jeûne long, fallait pas rigoler, fallait se faire accompagner. On peut rentrer, je pense, dans la pratique. Quelles sont les modalités, fréquence, intensité, volume?
Et est-ce qu'il faut s'y préparer? Parce que vous avez dit, c'est comme si on faisait un 20 km et qu'on ne s'était pas entraîné. Mais est-ce que, par exemple, je peux commencer par un jour de jeûne avant, je reprends. Après, la fois d'après, peut-être j'essaie de faire une journée et demie. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place aussi pour s'y préparer?
Cette préparation, comme tu l'as décrit, je pense que c'est bien pour le jeûne intermittent, pour comprendre un petit peu la façon dont le corps réagit. Pour le jeûne long, parce que c'est quelque chose de thérapeutique qu'il ne faut pas faire à la maison, il faut directement aller dans une clinique ou dans un centre qui le pratique pour vraiment découvrir comment on le fait. C'est mieux de se préparer à l'avance, donc d'éviter les repas trop riches, d'éviter d'avoir trop d'alcool, trop de café avant, parce que ça peut faire aussi mal à la tête pendant le jeûne. Et donc, on se prépare un petit peu pour pouvoir rentrer dans le métabolisme de jeûne assez facilement.
Donc, à 1000%, je vais me lancer dans le jeûne long. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi le mode d'emploi? Combien de jours avant je réduis un petit peu mes calories?
On va dire une semaine avant, on commence à planifier les choses pour pouvoir après rentrer vraiment dans une diminution des calories un jour ou deux avant le jeûne. Il n'y a pas besoin d'une période trop longue, mais c'est bien de le planifier pour faire de la place dans son emploi du temps, de préparer aussi la réalimentation, est-ce qu'on va pouvoir le faire d'une façon confortable. Donc cette préparation, elle est quelques jours avant de diminuer les substances addictives. Et après, il faut qu'on ait de la place pour être tranquille pendant le jeûne. Parce que si c'est fait en parallèle du boulot, ce n'est pas forcément évident. Quand on le fait d'une façon vraiment régulière, je bosse aussi en jeûnant parce que j'ai l'habitude maintenant, mais au début, il faut quand même faire de la place pour ne pas avoir trop de stress dans sa vie quotidienne et prévoir aussi la réalimentation. Il ne faut pas avoir un anniversaire ou une fête 3 jours après sa période de jeûne.
Donc, il faut planifier son jeûne.
Vraiment le planifier.
On parle d'entraînement physique, ouais, avec la planification, mais il y a une vraie, vraie, vraie planification du jeûne. En fait, si je t'entends bien, il faudrait 3 semaines un peu. Il faudrait une semaine avant, une semaine de jeûne et une semaine derrière.
Ouais, surtout la semaine derrière. Souvent, quand on commence à avoir vraiment l'habitude, la préparation, elle est un petit peu accessoire. Mais la réalimentation, elle est très importante. C'est là où il faut au moins une semaine, où on est très rigide et discipliné pour avoir une alimentation faible en calories, assez diversifiée, pas de produits inflammatoires, pour que cette transition à la vie normale soit aussi facile.
Et je sais comment ça va se passer. Les gens vont écouter ce podcast et ils vont se dire, peut-être que je vais essayer le jeûne et je ne vais pas me faire encadrer. Malheureusement, ça coûte combien déjà de... Est-ce que ça nous coûte? Est-ce que c'est remboursé par l'État français ou pas pour faire un jeûne? Ça, c'est ma première question. Après, je partirai sur la deuxième.
Malheureusement, en France, ce n'est pas remboursé. Il n'y a pas de centre qui le propose. Et donc, c'est vrai que c'est assez inaccessible. Parce que c'est inaccessible, les gens vont vouloir faire ça à la maison. Et ça, c'est vrai que malheureusement, il faut vraiment le déconseiller. Ça peut donner envie, mais...
Même 2 jours, c'est ça. Ma question, c'est même sur 2 jours, il y a des risques. Si par exemple, je fais 2 jours de jeûne, on a vu qu'il pouvait y avoir des petits effets.
Il n'y aura pas forcément beaucoup de risques, mais tu ne vas pas forcément tirer des bénéfices parce que tu vas être dans cette période où c'est un petit peu stressant, un petit peu difficile. Okay. Tu ne vas pas être adapté au jeûne et tu n'auras vu que la période stressante. Okay. Tu n'auras jamais vu vraiment ce qui se passe après. Ça va sûrement te décourager. Et donc, c'est pour ça que c'est mieux d'aller directement faire un jeûne long d'une semaine plutôt que de se dire... Je commence par 2 jours, 3 jours, 4 jours parce que ça risque d'être contre-productif.
Est-ce que tu peux rentrer...
répondre au prix, peut-être?
Non, vas-y.
Le prix, chez nous, en Allemagne, on commence à partir de 4 000 euros par séjour. Donc, c'est cher, mais il faut avoir en tête que c'est une clinique, ce n'est pas le Club Med. Donc, il y a des médecins, il y a des infirmières qui nous voient tous les jours. Donc, c'est vraiment très médicalisé. Et le prix d'un lit d'hôpital, d'un lit dans une clinique, c'est souvent dans ces alentours-là. C'est plusieurs centaines d'euros par jour. Et ça, c'est vraiment le minimum. Donc, pour un lit d'hôpital, dans n'importe clinique que ce soit. Donc, en France, c'est vrai qu'on a tendance à penser que la santé est gratuite, parce qu'elle l'est pour nous. On a vraiment de la chance. Mais ça, c'est pas vraiment le cas, en fait, dans plein de pays où la santé n'est pas gratuite. Et donc, c'est pour ça que quand on va dans une structure privée, ça peut coûter cher, mais c'est parce que c'est un endroit où il y a vraiment les médecins, les infirmières, la supervision médicale, la sécurité. Et juste pour ajouter une petite chose, c'est qu'en Allemagne, c'est remboursé par la sécurité sociale pour certains cas, mais un médecin peut dire, ah, vous avez un diabète de type 2, vous avez de l'hypertension, allez faire un séjour de jeûne, ça peut être pris en charge par votre assurance, demandez à votre assurance.
Et pourquoi en France c'est pas le cas? Parce qu'au final on dit 4 000 euros c'est cher, mais un traitement médicamenteux à vie remboursé par la Sécu c'est beaucoup plus cher que 4 000 euros si on fait ça pendant 30-40 ans. Donc c'est quoi la raison? C'est dans les mentalités? Est-ce qu'il y a une raison déjà? Ou c'est juste qu'on est en retard sur ce qui se fait?
Je pense que c'est un retard, les mentalités. En France, c'est vrai que ce qui se passe en ce moment, c'est que le jeûne est pratiqué par des personnes qui font un peu n'importe quoi, qui s'improvisent guides de jeûne, qui vont faire jeûner des personnes atteintes de problèmes de santé sur une ferme sans aucune supervision médicale. Ça va mal se passer. Il y a une personne qui est morte parce qu'elle a été mal encadrée et ça a fait la une des journaux. Et du coup, les autorités de santé s'alertent. Et les autorités de santé, quand elles ont eu à passer leurs conclusions sur le jeûne, ont dit,
C'est dangereux.
la façon dont c'est fait en France, le jeûne est dangereux. Et du coup, ce n'est pas forcément de dire le jeûne est dangereux, c'est la façon dont c'est fait en France, parce qu'il n'y a pas de clinique. Et comme tu dis, c'est vrai que si on calcule le coût des maladies chroniques, le système de sécurité sociale, si on arrivait à faire que la plupart des patients qui prennent des médicaments contre le diabète de type 2, ceux qui prennent des médicaments contre la pression artérielle, arrêtent de prendre ces médicaments parce qu'on les prend en charge dans une cure, au final, la sécurité sociale pourrait vraiment sauver beaucoup d'argent.
Mais là, on ne se réfère pas à l'actualité, on se réfère au consensus scientifique. On est d'accord que le jeûne long a un consensus scientifique sur les effets bénéfiques pour notre santé.
Il y a un consensus scientifique clair, il y a même une association médicale en Allemagne qui réglemente la façon dont le jeûne long est fait pour que les protocoles soient les bons. Et il y a clairement un consensus scientifique. Et je pense que le consensus scientifique le plus fort, c'est sur le diabète de type 2. Parce que ça a été montré avec différents types de stratégies de réduction calorique où c'est clair que le diabète de type 2 peut être guéri par le jeûne.
Et les gens ressortent sans traitement derrière. Genre, ils arrivent avec un traitement, ils font un jeûne et ils ressortent guéris.
Ça va dépendre de la gravité aussi. Une personne, alors on a regardé dans nos données cliniques, les patients qui ont un prédiabète mais à un stade pas avancé, avec une cure de jeûne, la moitié d'entre eux vont repartir avec moins de médicaments ou pas de médicaments et avoir des valeurs sanguines normales. Pour les autres personnes pour qui ça ne marche pas forcément, peut-être que ça va être une deuxième cure ou alors un mode de vie en bonne santé parce que, bah, on peut faire beaucoup de choses avec une cure de jeûne, mais parfois, il faut la répéter. Et les personnes qui sont vraiment atteintes d'un diabète depuis, à dire la personne qui prend de l'insuline depuis 10-20 ans, là, c'est quand même un cas beaucoup plus compliqué. Mais il y a des études cliniques qui suggèrent que ça pourrait aussi marcher dans ces cas-là, mais la démarche est beaucoup plus longue.
Et que quand on sait que le diabète, c'est en fait la perte d'équilibre de notre santé métabolique qui est le terrain fertile à l'apparition de toutes ces maladies chroniques cardiovasculaires, neurodégénératives, cancers. Je pensais en fait, il y a des cures thermales qui sont remboursées en France de 3 semaines. Pourquoi pas avec le temps des cures de jeûne?
Ouais, c'est exactement ça. C'est un système qui marcherait vraiment parce que ça permettrait d'avoir un traitement pour les personnes qui ont des problèmes métaboliques et tout le monde y gagnerait, que ce soit les citoyens ou alors les systèmes de sécurité sociale.
Mais est-ce que justement ces gens qui ont un diabète de type 2, qui ont du coup un traitement médicamenteux, est-ce qu'ils se rendent compte que leur traitement peut avoir des effets secondaires? Parce qu'au final, ils prennent leur traitement, ça va, tout va bien, c'est gratuit en France. Tu vois, est-ce qu'il y a vraiment ce besoin de faire un jeûne? Ils se disent, bah, moi, j'ai mes cachets, tout va bien. Au final, ma vie, elle est normale.
La santé, ce n'est pas gratuit. Hein. La santé, c'est un investissement. Donc, la valeur de votre santé, elle est inestimable.
C'est ça. La plupart des personnes ne le savent pas, ça, en fait. Et on se contentait de suivre les conseils de leur médecin généraliste, de prendre les médicaments sans se poser les conséquences de ce qui va arriver dans 10-20 ans. Et là, il y a vraiment un manque d'éducation. Et c'est pour ça que ce côté longévité est très important, parce que la longévité, ça va être aussi un vecteur pour éduquer les gens, pour que ces personnes soient à même de gérer un petit peu mieux leur mode de vie et optimiser leur santé, au final, pour vivre plus longtemps en meilleure santé.
Est-ce que tu peux, on refait un petit focus sur le jeûne en soi, sur l'expérience du jeûne, sur la chronologie. Tu disais les deux premiers jours, ça va être une expérience un petit peu difficile où il va falloir travailler sur soi-même. Et puis après, on a les bénéfices, juste pour qu'on puisse, comme si on partait tous les deux avec Alexandre, faire
ah
un
oui,
jeûne long.
Comme si tu partais dans une clinique de jeûne. Donc, si tu arrives le premier jour, bon, tu as l'accueil par les infirmières, on t'explique comment ça se passe pour te guider un petit peu. Le jour 2, tu vas avoir une transition. Et c'est parce qu'on a besoin quand même de ralentir un petit peu la digestion pour pouvoir passer dans l'état de jeûne avec des repas qui sont réduits un petit peu en calories, mais faciles à digérer. C'est surtout ça qui est important, riche en plantes. Et après cela, tu commences le jeûne. Ça peut être commencé avec un laxatif. C'est pas glamour, mais ça fait comme un rituel où on passe vraiment un petit peu plus facilement dans le mode jeûne. C'est un petit peu le côté rituel. C'est pas forcément nécessaire, mais beaucoup de gens apprécient d'avoir cela. Et après, les premiers jours, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on va avoir cet état de jeûne qui va se mettre en place. Donc, jour 2, jour 3. Il faut peut-être pas trop planifier, faire d'activités, parce que si tu imagines être dans ces cliniques, tu vas avoir plein d'activités de groupe qui vont être proposées. Tu peux aller au yoga, avoir des cours de cuisine, etc., avoir des randonnées. Alors peut-être qu'au début, il faut prendre un petit peu light et tu peux planifier de rester dans ta chambre ou lire un bouquin. Mais après cela, tu vas être beaucoup plus adapté au jeûne, tu vas te sentir mieux à partir du jour 3, 4, 5. Et là, tu vas être en cétose, donc tes corps cétoniques vont nourrir ton cerveau, nourrir tous tes organes. Et là, ça va être le moment où tu peux aussi réfléchir à comment cette nouvelle normale de ton corps pour apprendre de nouvelles choses. Et parce que chez nous, le séjour de jeûne, on va dire de 10 jours, fait que tu vas jeûner pendant 6 jours, il faut déjà commencer à anticiper et à planifier la réintroduction de l'alimentation. Parce que cette période-là, elle est vraiment importante. Donc, après, au jour 6, 7, tu vas rompre le jeûne. Tu vas réintroduire l'alimentation avec quelque chose de faible en calories, assez facile à digérer. Et petit à petit, tu vas graduellement augmenter de 800, 1200, 1600 calories jusqu'au jour de départ.
Et quelles sont les erreurs à rompre le jeûne trop rapidement avec des repas riches? Et comment on rompt le jeûne?
L'erreur, c'est de se dire « je vais manger comme avant ». Et une deuxième erreur, c'est de ne pas prendre le temps de retrouver un petit peu le contact avec sa satiété. Donc, de manger avec son téléphone, sans prendre le temps, trop vite, sans mâcher. Parce que quand on a fini de jeûner, on va avoir un nouvel point de satiété, on va avoir moins faim. Il faut mieux écouter son corps dans ce cas-là pour pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter de manger, parce que si on mange trop, on va se sentir mal.
Et est-ce qu'il y a des symptômes, des sensations qui devraient nous alerter pendant le jeûne? Je ne sais pas, on a dit que le mal de tête, c'était peut-être normal au début, mais est-ce que justement, il y a d'autres symptômes qui devraient alerter, nous dire non, là, il faut arrêter, ou est-ce que tout le monde peut au final réussir à faire 4-5 jours?
On va dire que chez nous, quasiment tout le monde arrive à faire 4-5 jours parce qu'il y a la supervision médicale. Ce qui peut arriver, et là où il faut ajuster, c'est parfois le matin, tu vas avoir une tension artérielle un peu faible. Et là, peut-être qu'il faut ajouter un petit peu de sel dans la soupe, quelque chose comme ça, pour pouvoir que tu te sentes un petit peu mieux. Tu vas avoir des niveaux de glucose qui vont être vraiment faibles parce que ton corps brûle le gras et le glucose descend trop bas. Et là, il faut ajuster un petit peu. C'est pour ça aussi qu'on donne un petit peu de miel. Tu peux un petit peu de miel dans un thé le matin. Ça va un petit peu aider à commencer la journée. Et donc, c'est pour ça, le matin, après le jeûne, c'est vrai qu'il faut ajuster un petit peu en fonction de comment on se sent pour commencer la journée d'une bonne façon.
Et qu'est-ce qui dirige le fait que je fasse 4-5 jours de jeûne, une semaine, 12 jours ?
Ça va être les objectifs. Donc, si tu as un objectif de te remettre en santé parce que tu as un diabète de type 2, une polyarthrite rhumatoïde, là, il va falloir jeûner plus longtemps. Et ça peut être une cure de 3 semaines où tu as 2 semaines de jeûne, 1 semaine de réintroduction alimentaire. Parce qu'il faut vraiment faire un travail en profondeur. Et si tu fais qu'une semaine, ça ne va pas être suffisant. Donc, on voit dans certains cas que si tu veux vraiment avoir un effet sur tes niveaux de cholestérol, par exemple, sur la prévention des maladies cardiovasculaires, de faire une semaine ou ces 5 jours de jeûne, par exemple, là, ça va être pas assez. Il faut aller vers 14 jours avec 10 jours de jeûne, par exemple. Donc, ça va vraiment dépendre des indications.
Et le rôle de l'hydratation ? On entend jeûne hydrique.
L'hydratation, elle est super importante parce que tu as tendance à perdre de l'eau les premiers jours de jeûne. Ce qui explique aussi pourquoi on perd beaucoup de poids. Le premier jour, on peut perdre 1 ou 2 kilos parce que c'est principalement de l'eau. Et ça fait qu'on a vraiment besoin de s'hydrater. Donc, il faut boire et parfois même se forcer à boire parce qu'on a tendance vraiment à se déshydrater.
Je ne sais pas vous, mais... Ça me tente bien de me faire un jeûne.
C'est ce que j'allais dire. On pourrait tester ça, peut-être un jour.
Ce que tu peux faire, c'est à la rigueur, tu as des protocoles de jeûne qui peuvent être adaptés à faire à la maison. Alors, ça peut être ces programmes de 5 jours où tu vas avoir une réduction en calories qui va être vraiment très forte. C'est un petit peu ces programmes de diète qui imitent le jeûne ou autre. Nous, on en a un qui est un petit peu plus strict que les diètes qui imitent le jeûne parce que les diètes qui imitent le jeûne, celles qui sont les plus communes, elles sont quand même à 900 000 calories par jour. Alors, quand tu es un Américain qui mange 3000 calories par jour, ça fait un effet spectaculaire parce que tu chutes brutalement. L'Européen va avoir quand même un petit peu moins d'effet et peut-être que là, il faut aller un petit peu plus loin. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est quelque chose qui est à 600 calories par jour. C'est un programme de 5 jours qui est disponible. Il faut juste acheter la boîte, en fait. Elle arrive par la poste et tu peux faire ça à la maison si tu es en bonne santé.
Après, Robin, nous, c'est 1000%. Donc, si on se fait un jeûne, on va venir te voir
en Allemagne. On va venir en Allemagne.
Je me vois bien en peignoir, non ? Ça se passe comment ?
Ouais,
on est en peignoir, on a des petits massages.
Ouais, c'est vrai qu'on essaye aussi que les gens soient bien. Donc,
c'est une expérience.
Quand on décrit la clinique, on est un mélange d'une clinique. On a le côté hôtel aussi et un petit peu le côté monastère qui peut être surprenant, mais le jeûne peut être aussi propice à méditer, à avoir des expériences d'introspection.
C'est une expérience avec soi-même et aussi une expérience sociale. Hein. J'ai vu que la force du groupe, des gens qui traversent la même expérience est super importante.
Ouais, si on le fait seul à la maison, ça va être très difficile. Le lien social est très important. Et donc, de le faire en groupe, ça, c'est vrai que c'est super parce que les gens vraiment sont beaucoup plus connectés dans l'état de jeûne. Il y a vraiment un truc qui se passe. C'est aussi pour cela que tous les jeûnes étaient faits avant dans l'histoire de l'humanité en groupe, même dans les religions. Et donc, il y a vraiment une dynamique de groupe importante.
Et juste pour conclure aussi, ça change notre relation émotionnelle avec la nourriture. C'est qu'on n'en a pas parlé, mais ça change aussi notre vision de voir l'alimentation de jeûner.
Oui. Ça change la relation émotionnelle parce que déjà, on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin de manger en permanence. On comprend ce qui se passe quand on arrête de manger. On comprend ce qu'est la faim. Est-ce qu'on a faim ou est-ce qu'on est juste ennuyé ou est-ce qu'on a besoin juste de boire, par exemple ? Parfois, les gens ont un peu de mal à savoir ce qui est vraiment la faim. Et donc, d'avoir une période de jeûne, on va découvrir un petit peu toutes ces sensations. Ça permet vraiment de se retrouver et de s'écouter un peu plus.
Ben super, on a hâte d'être en peignoir en Allemagne alors pour tester tout ça.
Un grand merci
pour ce podcast. On mettra peut-être des liens en description s'il y en a certains pour si les gens veulent tester peut-être à la maison avec cette formule pour les gens en bonne santé. Ben merci pour tous. Merci au Sommet de l'Hypersanté de nous avoir reçus aussi pour cet événement. Merci à toi Vincent, aussi à te voir en peignoir. Ça va être sympa.
Ouais, merci Robin, franchement.
Merci de m'avoir accueilli.
On a pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode. Merci.
N'oubliez pas toujours de liker la vidéo et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
Ciao.